France Musique. Musicopolis. Sam Martini, père de la symphonie. Ils sont plusieurs à qui on a voulu accorder ce titre de « père de la symphonie ». On en trouve dans divers pays européens qui chacun revendique la paternité du genre musical qui a eu tellement de succès à la fin du XVIIIe siècle. L'Autriche plaide pour Haydn, par exemple, ou l'Allemagne pour Stamitz. Mais en fait, le premier de tous, le vrai père, c'est Sam Martini en Lombardie. Alors certes, il faut bien reconnaître que Sam Martini n'est pas très connu aujourd'hui. Et pour cause, il a passé toute sa vie à Milan, il n'a pas cherché fortune à l'étranger, il n'a pas poursuivi la voie de l'opéra, qui menait alors à la célébrité, il n'a pas ouvert d'école, il n'a pas écrit d'ouvrages théoriques d'importance, il n'a pas contrôlé ses publications. Et pourtant, pendant 74 ans de vie milanaise, il a creusé son sillon, développant un style qui a influencé au moins deux générations de musiciens après lui, tout en vivant une modeste vie de maître de chapelle à l'année. Bien sûr, il nous faut remettre un peu en perspective ce que je viens de vous dire, à savoir la modestie de la vie de Sam Martini. Parce qu'à son époque, il a été immensément connu, et dans toute l'Europe. Ses partitions circulaient absolument partout. D'ailleurs, ses manuscrits se sont disséminés, et on les trouve aujourd'hui dans la plupart des grandes bibliothèques d'Europe, à part à Milan. On lui passait des commandes de très loin, notamment de Vienne, et les mélomanes se plaignaient que, devenu vieux, Sam Martini ne fournissait plus tout ce qu'on lui demandait. À ses doléances, le compositeur, dit-on, répondait en souriant « j'en ferai, mais le clavecin me tue ». Revenons un peu sur la vie de Sam Martini. D'abord, quelques précisions sur son nom. On l'appelle aujourd'hui Sam Martini, en un seul mot avec deux M, mais ses contemporains l'appelaient plutôt San Martini, en deux mots, version italienne de Saint Martin. Saint Martin, justement, c'est le nom de son père, un oboïste français émigré en Italie où il s'est fixé à Milan. Giovanni Battista, c'est le prénom de notre Sam Martini, est le septième de ses huit enfants. L'un de ses frères aînés, Giuseppe, est devenu oboïste lui aussi, comme le papa, et compositeur. Et il a fait une grande partie de sa carrière à Londres. C'est très certainement son père qui a formé Giovanni Battista. Il a peut-être aussi profité des conseils et des leçons de son frère aîné Giuseppe.
Thank you.
la date de naissance de Giovanni Battista Sammartini. Mais c'est vraisemblablement 1700. Il a commencé tôt à travailler, puisqu'en 1717, il est déjà listé comme oboïste avec son frère Giuseppe à l'église Saint-Cels de Milan. 3 ans plus tard, les frères Sammartini, comme on les appelle, sont cette fois-ci dans l'orchestre du tout nouveau Reggio Ducal Teatro, c'est-à-dire de l'Opéra de Milan. Un très grand opéra qui accueille toutes sortes de productions lyriques et qui fait entendre les meilleurs chanteurs du moment. Certainement une bonne école pour notre Giovanni Battista. Quelles sont les possibilités pour un jeune musicien des années 1720 à Milan pour faire carrière? Ou plus prosaïquement, pour gagner sa vie? S'il est seulement instrumentiste, il y a l'orchestre de l'opéra ou les églises, qui peuvent aussi recruter quelques chanteurs. Les 192 églises que compte Milan à cette époque n'ont pas toutes des instrumentistes et des chanteurs à demeure, mais celles qui n'en ont pas engagent parfois, au moins une fois par an, le jour de la fête du Saint-Patron, quelques intermittents. Et il y a donc des opportunités, même pour ceux qui n'ont pas de poste fixe. Il y a également les séances musicales chez les nobles, ou dans les grandes maisons, et un peu d'enseignement, mais pas de quoi faire fortune. Ceci dit, si le jeune musicien a la chance d'être aussi compositeur, il pourra peut-être se faire remarquer et petit à petit monter en grade. Giovanni Battista Sammartini n'a pas l'air d'être un compositeur super précoce. Du moins, si l'on en croit ses biographes, sa première œuvre connue, et perdue d'ailleurs, est un oratorio donné en 1724. Il a alors 24 ans. Puis, en 1725, il donne son premier recueil de cantates pour le carême à la congrégation du Santissimo Entiero, qui se réunit dans l'église San Fedele. Sammartini a des postes dans plusieurs églises. En 1724, il est maître de chapelle de Santa Maria delle Grazie. En 1726, il est vice-maître de chapelle de la basilique de Sant'Ambrogio. Il en sera le titulaire 2 ans plus tard. Son contrat précise qu'il est déjà célèbre comme compositeur d'œuvres sacrées. En 1728, donc vers 28 ans, il est le chef de chœur de la congrégation du Santissimo Entiero. Lorsque le célèbre historien Charles Burney passera par Milan en 1770, il écrira, comme une boutade, que Sammartini est le maître de chapelle de la moitié des églises de la ville. En tout cas, on sait qu'à partir de 1760, il a au moins 8 églises dans son portefeuille et 11 en 1775, l'année de sa mort. Si Sam Martini accumule les postes dans des églises, c'est sans doute que tout ça n'est pas très bien payé et que pour avoir une vie décente, il faut multiplier les contrats. Raison pour laquelle il enseigne aussi. À partir de 1730, il est professeur au Collegio dei Nobili, le collège des nobles. Un poste certainement stratégique, puisqu'il permet de rencontrer les membres des familles influentes et qui ont les moyens de se faire jouer de la musique à domicile. Enfin, tout de même, notre Sam Martini tente sa chance à l'opéra. En 1732, il fait représenter Mehmet à Lodi. On dit que l'opéra a ensuite été donné à Vienne. On ne sait rien de la réception de l'œuvre, mais le compositeur ne va pas vraiment persévérer dans cette voie. Il n'écrira que 3 ou 4 ouvrages, de loin en loin. Si le Mehmet de Sam Martini a été donné à Vienne, c'est qu'il y a des connexions très étroites entre Milan et l'Autriche. Depuis 1706, en effet, les Autrichiens gouvernent la Lombardie, ce qui occasionne évidemment des contacts fréquents et beaucoup d'échanges. Les musiciens et les partitions voyagent de Milan à Vienne et vice-versa. C'est ainsi que Christoph Willibald Gluck va venir à Milan étudier avec Sam Martini pendant plusieurs années à partir de 1737. Déjà à cette époque, Sam Martini est connu surtout pour ses symphonies. Pourquoi donc Sam Martini compose-t-il des symphonies ? Je vous ai parlé tout à l'heure des possibilités pour les musiciens de travailler à l'opéra ou dans les églises. C'est en effet là que l'histoire du genre commence. Une ouverture d'oratorio ou d'opéra, comme celle que Sam Martini compose pour Mehmet, n'est pas très différente d'une symphonie. 3 mouvements, le premier vif, un peu élaboré, le deuxième plus lent, assez chantant, le troisième vif et dansant. Et une orchestration limitée aux cordes. C'est ainsi que se présentent toutes ces premières symphonies, avec une durée totale qui dépasse rarement les 10 minutes. bien sûr, pour devenir le père de la symphonie, il ne suffit pas d'écrire des morceaux qui ressemblent à une ouverture d'opéra ou d'oratorio. Il faut avoir l'occasion de les faire jouer, avoir un orchestre et des auditeurs. C'est là que le fait que Sam Martini vive à Milan est très important. En effet, il y a dans cette ville un grand nombre de musiciens amateurs. Des amateurs qui se réunissent pour jouer ensemble, à qui il faut donc de nouvelles partitions régulièrement. On sait bien que dans le temps, contrairement à aujourd'hui, on aimait essentiellement les nouveautés. Donc, Sam Martini fournit des symphonies, intéressantes et pas trop difficiles à jouer, pour un certain nombre de cercles. Il va même fonder une académie philharmonique qui réunit mélomanes et musiciens professionnels. Sa musique évolue avec le siècle. Vers les années 1750, il ajoute des instruments à vent aux cordes de base et il va vers davantage d'expressivité. Ce personnage est très important à Milan pour ce qui concerne le développement de la symphonie. C'est le comte Pallavicini, le gouverneur autrichien. Pallavicini a instauré une série de concerts d'été sur la place devant le château des Sforza. Les concerts ont lieu trois fois par semaine, le soir, pour divertir les Milanais de toute classe sociale qui se promènent et prennent le frais tranquillement. Le vendredi, lorsque l'opéra est fermé, le concert est suivi de danse et de jeux. Or, qui croyez-vous qui dirige l'orchestre ? C'est notre Sam Martini, qui a, semble-t-il, un rôle polyvalent de compositeur, de prestataire, de directeur de la musique. Il doit réunir l'orchestre, le faire répéter et composer la musique nécessaire. On comprend bien qu'avec tous ses débouchés pour ses symphonies, il a pu inlassablement alimenter son catalogue. Thank you. une activité incessante. Voilà la vie de Giovanni Battista Sammartini. L'enseignement, les compositions pour les églises, avec la direction et la tenue de l'orgue, les concerts chez les particuliers, l'Académie philharmonique et les concerts qu'il donne, pas seulement à Milan, mais également dans d'autres villes proches, où son orchestre fait de fréquentes apparitions. Là d'ailleurs, il recrute des musiciens locaux pour former des ensembles plus nombreux, ce qui donne certainement encore plus de relief à sa musique. En 1770, il a alors 70 ans, Milan reçoit la visite de Charles Burney, anglais flegmatique, qui écrit à propos d'une œuvre de Sammartini « La partie instrumentale est merveilleusement traitée. Aucun des exécutants ne peut rester longtemps inoccupé. Les violons, surtout, ne se sont jamais reposés. On pourrait désirer qu'il eût mis la bride à son Pégase, car celui-ci semble emporter avec lui son cavalier en courant ventre à terre. » Pour parler sans métaphore, sa musique plairait plus encore si elle était moins chargée de notes et moins remplie d'allegro. Mais la fougue impétueuse de son génie le force à parcourir une succession de mouvements rapides. Presto final de la symphonie en ré majeur JC11 de Giovanni Battista Sammartini, l'Accademia d'Arcadia dirigée par Alessandra Rossi Lurig. La réécouter, le podcast, sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et aussi sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Élise Kravets pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Cédric Chatelus pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.